Bienvenue dans Finance Fait Maison, le podcast où on élabore la recette de notre épanouissement financier avec les ingrédients cachés dans nos placards. Je suis Sandrine, money coach, autrice et fan de développement personnel. Ici, je t'aide à résoudre tes problèmes liés à ton argent pour que tu puisses enfin te concentrer sur ton accomplissement. Je suis convaincue qu'en domptant nos finances, nous domptons notre vie. Alors, allons-y. Hello, qu'est-ce que je les attends ces moments où j'éteins tout, je fais silence dans la maison, je prends mon micro et je te visualise en train de m'écouter. Je t'imagine en train de faire la vaisselle, en train de promener ton chien, faire du sport, d'être dans les transports ou confortablement installé dans ton lit, dans ton canapé. Je te vois dans l'action et en même temps en train de te demander ce que tu vas bien pouvoir déguster dans l'épisode du jour et si ça vaut la peine que tu ailles dans un endroit calme pour bien l'écouter. Alors oui, aujourd'hui ça vaut la peine, c'est un des épisodes qui change tout si on l'écoute vraiment. Offre-toi cette opportunité d'être concentré sur ce que je vais t'apporter. On parle souvent de la crise économique et de l'inflation qui viennent ruiner nos finances. Et si on parlait de la première raison pour laquelle tes finances ne sont pas comme tu le veux aujourd'hui? Le fait que tu les sabotes. Dans cet épisode, tu vas découvrir si tu fais partie des personnes qui s'auto-sabotent financièrement. Tu comprendras pourquoi tu fais ça, comment en sortir. Et si tu restes jusqu'à la fin, je vais te partager une liste des principaux indices qui montrent que tu es en train de te saboter. Et tu verras que certains sont moins évidents que d'autres et pourtant, ils pèsent lourd sur la balance. On va commencer par définir ce qu'est l'auto-sabotage financier. Parce qu'évidemment, si tu ne sais pas ce que c'est et que tu n'en as pas conscience, tu ne peux pas rectifier le tir, n'est-ce pas ? Je pars du principe que tout changement commence par une prise de conscience. Il y a des choses que tu vis et que tu ne réalises pas, donc évidemment tu n'as aucun pouvoir là-dessus, ça se fait malgré toi et tu peux mettre des années à ne pas comprendre pourquoi tu galères financièrement, où va ton argent, pourquoi tu n'arrives pas à tenir un budget et tu vas retourner la question sans jamais réaliser que c'est simplement parce que tu as tendance à t'auto-saboter. Tu peux aussi en avoir conscience, mais seulement après coup parce que tu ne sais pas réellement à quel moment ça commence. Tu ne le réalises qu'une fois la fin du mois arrivée et que tu constates qu'il ne te reste plus rien sur ton compte. Donc qu'est-ce que c'est l'auto-sabotage financier? De quoi on parle? À quoi ça ressemble de se mettre soi-même des bâtons dans les roues quand il s'agit de notre argent? L'auto-sabotage, en général, c'est lorsque tes actions viennent ruiner tes chances d'atteindre ton objectif. Et par action, j'entends les actions que tu fais, mais aussi les actions que tu ne fais pas. Donc tu t'auto-sabotes quand tes choix, tes actions viennent provoquer l'échec ou ruiner tes efforts. Un exemple d'auto-sabotage que je vois souvent, c'est quand certains de mes clients commandent une évaluation financière. Donc l'évaluation financière, c'est une analyse approfondie que je fais de tes dépenses et en fonction de ce qui en ressort et de tes objectifs, je te fais un plan d'action à suivre. La première étape, c'est de remplir un formulaire. Eh bien, il y a des personnes qui ont réservé leur évaluation, donc elles passent à l'action, elles se donnent une chance de changer les choses. Et pourtant, elles ne remplissent jamais leur formulaire. S'il n'y a pas de formulaire, il n'y a pas d'évaluation. Pas d'évaluation, pas d'action à mettre en place. Pas d'action à mettre en place égale pas de résultat. Et tout ça parce qu'il y a une partie en elle qui a fait un travail de professionnel pour qu'elle ne remplisse jamais un formulaire. Parfois, ça ne tient qu'à une ligne qui n'a pas été remplie, une case qui n'est pas cochée. Les fois où on s'auto-sabote ne sont pas toujours flagrantes. Souvent, ce sont des petites choses qu'on fait ou qu'on ne fait pas, mais on les répète. Et ça crée notre réalité. Tu sais, ici, je parle d'auto-sabotage financier, mais on peut se saboter dans tous les domaines de notre vie. Des gens sabotent leurs relations, leurs opportunités professionnelles, leur santé. Tout ce que je vais te dire aujourd'hui sur l'auto-sabotage financier est largement valable pour tous les autres domaines de ta vie. Par exemple, on connaît tous une personne qui rêve d'une belle relation, de trouver le partenaire idéal à côté de qui elle pourra s'épanouir et goûter au bonheur, et elle le veut vraiment. Mais elle le veut tellement fort qu'elle a peur d'être déçue. Du coup, elle pense que le seul moyen d'y arriver, c'est d'avoir le contrôle. D'avoir le contrôle sur son couple et sur l'autre. Et donc, qu'est-ce qu'elle fait, cette personne ? Eh bien, elle va tellement vouloir contrôler les choses que ça va créer des conflits. Elle va instaurer un climat de tension, de méfiance, de dépendance, où il est difficile pour l'autre de s'épanouir, et pour elle aussi. Et tout ça va lui donner l'impression de perdre le contrôle. Donc, en réaction à ça, elle va essayer d'avoir encore plus de contrôle sur sa relation, ce qui se solde presque toujours par une rupture. Ça, c'est un exemple d'auto-sabotage. Quand on adopte des comportements qui vont détruire nos chances de vivre ce qu'on veut réellement, on se sabote. Et est-ce que tu sais pourquoi cette personne qu'on connaît tous fait ça? Simplement parce qu'elle avait peur d'être déçue. Elle est persuadée qu'elle ne survivrait pas à la déception. Donc plutôt que d'accepter que la déception est quelque chose qu'elle peut vivre, elle préfère chercher le contrôle. Résultat, lorsque cette relation a pris fin, elle a été déçue et elle s'est dit « Ok, il faut que je contrôle encore plus la relation suivante pour éviter ça. » Sauf qu'en faisant ça, elle continue de s'auto-saboter et le cycle se répète. Il y a des gens qui sont devenus professionnels en auto-sabotage. C'est un mécanisme de défense puissant et ça vaut pour la manière dont tu gères ton argent. Tu sais, en préparant cet épisode, j'ai eu envie de te partager ce moment où j'ai moi-même découvert que je me sabotais comme une pro. L'excellence est une valeur forte chez moi. Ce que je fais, je dois bien le faire, sinon je n'en tire aucune satisfaction. Mais à l'époque, je me réfugiais dans le perfectionnisme. J'ai essayé de viser la perfection dans tout ce que je faisais pour ne pas vivre une émotion en particulier, l'émotion de rejet. Si je fais tout bien, tout parfaitement, personne ne peut me rejeter. Et quand c'est parfait, ça plaît à tout le monde. Ok, pourquoi pas. Mais quelles ont été les conséquences de mon perfectionnisme ? Je cherchais à tout faire parfaitement et comme ce n'est pas possible, un jour je suis tombée sur un os. Le truc impossible à faire parfaitement, le truc qui ne se parfait qu'avec le temps. C'était un projet et c'était la première fois que je n'allais pas être parfaite et je ne l'acceptais pas. Donc j'ai rejeté ce projet, je l'ai repoussé encore et encore. Toutes les excuses étaient bonnes. Je l'ai abandonné pour ne pas vivre le rejet de moi-même. Je m'auto-sabotais en restant dans l'inaction. J'étais devenue une perfectionniste endurcie. Il m'a fallu du temps pour m'en libérer et parfois, tu sais quoi ? Cette partie de moi refait surface. Et quand ça arrive, je n'ai pas besoin de la rejeter. La peur du rejet est une émotion profondément humaine. Mais maintenant, elle n'a pas plus d'impact sur ma vie. Je ne me sabote plus en cherchant à être parfaite. Et tu sais quoi ? Waouh ! Depuis que je ne cherche plus la perfection, je n'ai jamais été aussi excellente de ma vie. Et si tu es là à m'écouter, c'est parce qu'il y a certainement une partie de toi qui ne veut plus s'auto-saboter, qui se dit « oui, c'est vrai, je comprends mieux et j'ai envie de sortir de ça ». Mais il y a aussi, en toi, une autre partie qui est terrifiée par la possibilité de vivre une émotion inconfortable de laquelle elle s'est protégée jusqu'ici. Quand tu t'auto-sabotes, c'est parce que tu te protèges et c'est inconscient. Tu ne te dis pas « oh tiens, j'ai reçu une prime ce mois-ci, elle pourrait combler une partie de mon découvert, mais moi, je ne veux pas sortir du découvert parce que j'ai peur de retomber dedans plus tard et d'être déçue de moi-même. Donc, je vais bien dépenser cette prime pour finir comme d'habitude à découvert et rester dans quelque chose que je connais bien bien. » Non, évidemment que tu ne te dis pas ça. C'est vraiment inconscient. Donc, tu vas plutôt avoir un autre type de réflexion en deux phases même. Phase 1. Tu reçois ta prime et tu te dis « oh trop bien, je vais épargner une partie et utiliser l'autre pour combler mon découvert et tout sera parfait, simple, logique. » Ok, ça c'est la phase 1, la phase où tu noies le poisson. Mais ensuite, il y a la phase 2. Le lendemain, tu te réveilles et « oh tiens, tu sais quoi, je vais profiter de ma prime pour acheter ça. Oh et tiens, j'avais oublié l'anniversaire d'un tel, je vais l'utiliser. Et mince, il ne me reste plus rien là, déjà ?» De toute façon, la vie est tellement chère, même avec une prime, je ne m'en sors plus. Heureusement qu'il me reste un découvert, sinon comment j'aurais fait pour tenir ? Oh, d'ailleurs, j'ai ce truc à acheter. Ah ben voilà, je vais utiliser le découvert pour ça et je me rattraperai le mois prochain. Il aura juste fallu deux phases. Première phase, tu noies le poisson. Je sais faire, je sais comment faire, je vais faire ce qu'il faut. Et non, parce que finalement, l'auto-sabotage s'active juste après. Et tu finis par ruiner tes chances de sortir du découvert, de rembourser tes crédits, d'épargner plus, de gagner plus. Pas parce que tu fais exprès, mais parce que tu as peur de ce qu'il pourrait se passer après avoir réussi. La peur de retomber dedans et d'être déçu, de culpabiliser, d'avoir honte. Est-ce que tu commences à voir comment il est efficace ton mécanisme de défense ? Tu t'auto-sabotes parce qu'inconsciemment, tu ressens le besoin de te protéger de quelque chose. Quand une partie de nous est terrifiée à l'idée de ne pas y arriver, elle préfère largement se saboter. Et là, c'est le moment où tu ne tombes pas dans le piège qui serait de te dire « je suis irrécupérable, je ne fais pas d'efforts, le problème c'est moi ». Non, c'est plutôt le moment où tu fais preuve de compassion avec toi-même. Le moment où tu acceptes que c'est tout ce qu'il y a de plus humain. Éviter l'inconfort est instinctif. On apprend à apprivoiser cet instinct, on ne s'en défait pas. Maintenant, ce que tu peux faire, c'est réaliser qu'en fait, il y a de l'inconfort dans tout. C'est inconfortable de redresser ses finances. Mais c'est inconfortable aussi de rester dans la galère financière. Donc cet inconfort qui te fait peur, en fait, tu y es déjà. Sauf qu'il y a un inconfort que tu connais bien, qui est familier, désagréable, mais tu vis avec. Et puis, il y a cet autre inconfort qui pourrait t'apporter ce que tu veux. Mais en vrai, t'en sais rien. Alors tu te dis, tant qu'à faire, je choisis ce que je connais déjà. Mais réfléchis bien. Puisque les deux situations sont inconfortables, qu'est-ce qui t'empêche alors de choisir ton inconfort ? Tu préfères galérer parce que tu es à découvert ou galérer parce que tu essaies de sortir du découvert ? Choisis ton inconfort, mais ne cherche pas à éviter ce qui est déjà là. C'est inconfortable de regarder sa situation financière en face, mais c'est aussi très désagréable de savoir que les choses s'empirent à chaque fois qu'on fait l'autruche. Alors le problème, c'est que certains sont devenus des experts en auto-sabotage. Le cerveau, machine incroyablement efficace, met des stratégies en place pour s'auto-saboter tout en se donnant bonne conscience. Et à ces moments-là, on peut avoir effectivement besoin de se faire coacher pour rompre nos schémas. Tu sais, j'ai eu des clients qui venaient en coaching et me disaient « Moi, Sandrine, à chaque fois que j'essaie de bien faire les choses, il y a toujours un imprévu, donc ça ne sert à rien. » Et quand je leur demandais « Ok, alors, c'est quoi ces imprévus? Raconte-moi. » Eh bien, on tombait rarement sur des situations imprévisibles comme un frigo neuf qui lâche d'un coup, un problème de santé mal remboursé. Non, on avait affaire à des situations bien plus prévisibles. J'ai oublié la régularisation d'électricité, j'ai aidé un proche pour la 9e fois de l'année, j'ai oublié de payer une amende à la bonne date, donc elle s'est majorée. Et quand je donne ces exemples, c'est sans aucun jugement. D'abord, juger, ce n'est pas mon métier. Ensuite, pour ceux qui suivent assidûment mes contenus sur Instagram, il n'y a pas longtemps, j'ai publié une citation qui dit « Dis-moi ce que tu dépenses et je te dirai ce que tu ressens, pas qui tu es. » Parce que tes dépenses ne disent rien sur qui tu es. Elles disent plutôt ce qui se passe en toi. Donc quand un coaché vient me dire « J'ai tout le temps des imprévus », en fait, je ne vois qu'un mécanisme d'auto-sabotage, tout ce qu'il y a de plus humain, quoi. Où est l'auto-sabotage quand on a des imprévus tous les mois, selon toi ? Si tu as bien écouté, tu sauras répondre à cette question. Je te laisse avoir ta propre réflexion, mais note simplement que tous les imprévus ne sont pas imprévisibles. Et quand on sait qu'une échéance va arriver dans l'année, mais qu'on ne fait rien pour s'y préparer financièrement, alors qu'on pourrait, eh bien c'est une manière de s'auto-saboter comme une autre. Et utiliser le mot imprévu pour des situations qu'on voit venir, c'est juste une manière de noyer le poisson. Bon, à ce stade de l'épisode, je vais te proposer de noter deux questions auxquelles tu vas répondre plus tard à t'être posées. Donc prends un carnet, une feuille de papier ou ouvre les notes de ton téléphone. Tu n'as pas besoin de mettre sur pause, je vais répéter les questions et je ne veux pas que tu y répondes maintenant. Ça doit faire l'objet d'un rendez-vous que tu prends avec toi-même pour y réfléchir ou que tu peux venir explorer en coaching avec moi. Alors, question 1, quelle croyance as-tu sur toi-même, sur ce que tu es, qui te pousse à t'auto-saboter financièrement? Deuxième question, quand tu sabotes tes chances de redresser tes finances, de gagner de l'argent, d'épargner, de quelle émotion inconfortable tu te protèges? Je répète les questions. Question 1, quelle croyance tu as sur toi-même, sur ce que tu es, qui te pousse à t'auto-saboter financièrement? Et question 2, quand tu sabotes tes chances de redresser tes finances, de gagner de l'argent, d'épargner, de quelle émotion inconfortable tu te protèges? Bien, alors nous arrivons à la dernière partie de l'épisode. C'est la partie où je te partage une précieuse liste non exhaustive de tous les indices qui prouvent que tu t'auto-sabotes financièrement au moment où je te parle. C'est parti. Tu t'auto-sabotes financièrement quand? Tu procrastines? Tu remets à plus tard tout ce qui concerne tes finances parce que tu fuis l'inconfort que tu penses ressentir quand tu mettras le nez dedans? Tu es peut-être même dans l'évitement, tu fais l'autruche, tu as peur d'ouvrir tes factures impayées, tu as des dettes, mais tu ne sais pas à combien elles s'élèvent. Tu ne regardes jamais ton compte les derniers jours du mois parce que tu ne veux pas voir à quel point ton découvert est important. Tu dis souvent « je me rattraperai le mois prochain » ou « comme il reste un peu d'argent, je vais le dépenser » ou « vu qu'il ne me reste pas grand-chose, ça ne sert à rien d'épargner ». Tu t'auto-sabotes quand tu ne crois pas que ta situation peut changer. Et oui, ne pas croire égale inaction. Inaction égale je ruine mes chances d'avoir un résultat. Tu t'auto-sabotes quand tu crois que tu es programmé pour la pauvreté et ça c'est un vaste sujet qui fera l'objet d'un épisode à part. Tu te sabotes quand tu ne prends pas de rendez-vous avec ton argent. Prendre rendez-vous avec son argent, c'est insérer dans son agenda un créneau destiné à organiser ses finances, se fixer un budget, suivre ses dépenses, faire le point sur son épargne, sur ses investissements, ouvrir ses factures, etc. Et ce créneau-là n'a pas besoin de durer plus de 5 minutes. Mais tu te sabotes en ne le prenant pas. Un autre indice d'auto-sabotage financier, c'est quand tu te répètes que tu ne sais pas. Que tu ne sais pas gérer un budget, que tu n'as pas d'éducation financière, que tu ne sais pas par où commencer. Donc, tu fais quoi quand tu ne sais pas? Je te laisse répondre à cette question. Tu te sabotes financièrement quand tu te dis « on n'a qu'une vie ». Je préfère tout dépenser. Je n'emporterai rien dans ma tombe. Quand tu ne fixes pas d'objectifs pour ton argent, pour tes finances, tu t'empêches de vivre toutes ces choses pour lesquelles il faut un minimum d'organisation, de temps, de planification, d'épargne. Il y a des gens qui rêvent de faire un tour du monde et il y a des gens qui planifient leur tour du monde pour qu'il se fasse un jour. Donc à toi de voir de quel côté tu es. Tu sais, il y a aussi des gens qui peuvent se dire « Oh mais moi, Sandrine, j'épargne, donc si j'épargne, je ne peux pas m'auto-saboter. » Oui, mais non. Même là, il faut aller regarder. Est-ce que tu épargnes pour les bonnes raisons? Si tu épargnes un maximum juste parce que tu as peur de manquer, que tu n'utilises pas cet argent pour donner vie à tes projets, tu n'as pas l'impression de saboter quelque chose là? Il y a des gens qui épargnent beaucoup pour leur fonds d'urgence, pour leur épargne de précaution, et qui n'épargnent jamais pour un projet. Parce qu'ils ont peur de devoir dépenser cet argent un jour. Et ça, c'est de l'auto-sabotage professionnel. Et tant qu'on y est, avoir peur de dépenser peut te priver de saisir les bonnes opportunités. Et à l'inverse, avoir peur de te priver sabote aussi tes chances de t'offrir d'autres opportunités. Quand tu n'es pas dans le juste équilibre, tu épargnes beaucoup sans but ou que tu dépenses beaucoup sans but, tu t'auto-sabotes. Et aujourd'hui, je ne parlerai pas des achats impulsifs car évidemment, les achats impulsifs sont une manière de s'auto-saboter, mais ce n'est pas pour les mêmes raisons, donc ce ne sera pas le sujet pour aujourd'hui, mais pour un autre épisode dédié. Retiens juste qu'une des meilleures façons de s'auto-saboter, c'est l'inaction. D'ailleurs, il y a trois choses qui, si tu ne les fais pas, que tu préfères rester dans l'inaction, vont particulièrement saboter tes finances et tes chances de t'épanouir financièrement. Numéro 1, demander de l'aide. Numéro 2, apprendre. Et numéro 3, essayer. Ne fais rien de ces trois choses et tu peux être sûr de voir l'état de tes finances empirer avec le temps. Voilà, c'est la fin de cet épisode. Si mon podcast t'aide, que c'est un rendez-vous mensuel que tu apprécies, n'oublie pas que tu peux lui attribuer une note. Comme les 48 auditeurs qui l'ont déjà fait à ce jour pour soutenir mon travail. 48 avis, des milliers d'écoutes mensuelles, des commentaires et des messages pleins de bienveillance. Vraiment, merci. En attendant le prochain épisode qui ne saurait tarder, on a fini la recette du jour. C'est du fait maison et c'est toi le chef. Alors, bon appétit.